l'ambiance d'Afrique avec Aïssa Diamé.
Allons à la découverte de l'univers de notre deuxième invité de la matinée. Nous accueillons Aminata Thior. Elle est la fondatrice de Cetalma.com. C'est une plateforme à médias en ligne dédiée à la beauté. Elle vient nous parler de l'actualité de Cetalma à travers la publication d'un rapport, un rapport chiffré et détaillé sur l'univers des cosmétiques en Afrique francophone subsaharienne. Elle va nous raconter tout cela. Alors tout d'abord, bonjour, merci de nous rejoindre, Aminata Thior. Alors est-ce que vous pouvez d'abord nous raconter la genèse et l'histoire de Cetalma qui veut dire en Wolof, cherche pour moi, regarde pour moi, trouve pour moi, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Bonjour, bonjour, bienvenue sur l'antenne d'Africa Radio.
Merci. Merci. Alors, Cetalma, c'est une plateforme, comme vous l'avez super bien décrit, qui est née en 2017 au Sénégal, parce qu'à l'époque, on trouvait qu'il n'y avait pas assez d'informations qualitatives, d'informations utiles pour les femmes qui recherchaient des produits originaux, des produits de beauté originaux.
Ouais.
Parce qu'il y a 4 ans, le marché n'était pas aussi développé, on n'avait pas des sites e-commerce ou des marques internationales qui étaient implantés sur le marché et qui proposaient les produits originaux. Il y avait beaucoup, beaucoup de contrefaçons. Et Cetalma était là juste pour dire aux femmes sénégalaises, ivoiriennes, camerounaises, où est-ce qu'elles peuvent trouver des produits de qualité, des produits originaux. On a commencé ça sur WhatsApp et puis je rentre dans ce marché et je vois qu'en fait, il faut aller au-delà parce qu'il y avait un véritable besoin et puis il y avait des acteurs qui étaient déjà présents sur le marché, qui créaient des emplois à travers leur instituts de beauté,
ouais,
à travers leurs écoles de formation, à travers du maquillage professionnel, c'est-à-dire des maquilleuses professionnelles qui gagnaient le salaire d'un ingénieur en une journée. Et je me disais qu'il faut faire quelque chose dans ce secteur. Et là, j'ouvre la plateforme Cetalma.com où on informe, où on a deux cibles. La première cible, c'est les consommateurs finaux, consommatrices finales, parce que c'est la majorité, c'est des femmes qui recherchent des produits de beauté de qualité pour leur peau et leurs cheveux, des astuces, tout ça.
Ouais.
Et la deuxième cible, c'est les entreprises africaines et internationales qui sont implantées sur ce marché subsaharien africain de la beauté. Les informations business, comment se lancer sur ce secteur, où trouver des laboratoires pour créer sa marque, c'est des types d'articles qu'on...
Notamment aussi, il y a un peu de tout sur le site.
C'est ça.
En tout cas, très bien documenté.
Merci.
Si vous êtes intéressé justement par ces sujets autour de la beauté afro, n'hésitez surtout pas à le visiter. Alors, vous êtes venu nous parler de l'actualité justement de la plateforme à travers la publication d'un rapport chiffré détaillé sur l'univers des cosmétiques en Afrique francophone subsaharienne. Vous allez nous en raconter l'histoire. Alors déjà, pourquoi ce rapport? Quel a été le déclic, Aminata Thior?
Parce que c'était nécessaire.
Ouais.
Parce qu'il n'y a eu jamais de données sur le marché de la beauté et des cosmétiques en Afrique francophone. Et à chaque fois qu'on parle de beauté en Afrique, on parle des pays anglophones, à savoir le Nigeria, l'Afrique du Sud, le Kenya, étant les 3 plus grosses nations où la cosmétique connaît des chiffres, on va dire, extraordinaires.
Ouais.
Et ça, pour nous, ça éclipsait l'Afrique francophone subsaharienne qui connaissait aussi un boom. Et du coup, c'était vraiment une nécessité de ce côté-là. Et de l'autre côté, y a plus des acteurs qui sont dans ce secteur depuis plus de 30 ans, encore une fois, qui génèrent du chiffre. Et on n'a pas de chiffres pour prouver que ce domaine a un potentiel. Et j'arrive sur ce marché-là. Depuis 3 ans, Cetalma n'arrête pas de dire aux gouvernements africains et aux investisseurs qu'il faut venir dans ce secteur-là pour accompagner les entrepreneurs qui y sont, développer ce secteur. Mais on n'avait pas de chiffres pour le prouver. Du coup, on n'a pas eu le choix. Les chambres de commerce africaines n'ont pas d'informations sur notre secteur, l'artisanat, parce qu'on dépend, ouais, de l'artisanat. Les acteurs eux-mêmes n'ont pas de chiffres sur le secteur. Cetalma étant média, il y a des données qu'on avait et il y a d'autres données qu'on est parti chercher nous-mêmes et faire les projections. Et ce rapport est né comme ça, parce qu'il y avait une nécessité, une urgence de le produire.
Ça veut dire qu'en général, les entrepreneurs dans ce secteur se lancent un peu à l'aveugle.
C'est ça, navigation à vue.
Et d'accord, et qu'est-ce que ça génère justement, le fait de ne pas avoir suffisamment de chiffres, de données, de cadres en fait, et d'informations?
C'est de la frustration. Depuis qu'on a commencé Cetalma, justement, en fait, c'est la seule plateforme aujourd'hui qui est focus Afrique sur le marché de la beauté et cosmétique. Donc, c'est vraiment une bibliothèque ou une mine d'informations sur tout ce qui se passe dans ce secteur. Et les questions qu'on reçoit le plus, c'est je cherche des chiffres pour mon business plan, je cherche des informations sur les consommatrices du marché. C'est une frustration chez tous les porteurs de projets qui veulent se lancer et qui n'ont pas d'informations chiffrées ou même qualitatives qui permettent de comprendre les subtilités du marché. Pareil, le manque de chiffres, ça ne pousse pas les grandes marques à venir s'installer. Elles savent qu'il y a du potentiel, ouais. mais sans chiffres, sans données, bah, elles ont du mal. La dernière chose qui est aussi très importante, c'est que sans chiffres, sans données qualitatives, nos gouvernements africains ont du mal à prendre au sérieux ce domaine. Et du coup, pour toutes ces raisons-là, c'était hyper important de faire le rapport.
Alors, quelles sont les informations que met en lumière ce rapport sans trop les détailler, puisque c'est quand même un oui. travail de fourmi. Donc, les grandes lignes, qu'est-ce que c'est ?
Oui, beaucoup de choses. Donc, les chiffres, déjà. Quels sont les chiffres du marché sur plusieurs segments beauté, à savoir là où on connaît le plus de boom, là où il y a le plus d'opportunités, c'est les chiffres du marché sur les segments skincare, les segments parfumerie de grandes marques, oui. Les segments produits capillaires naturels, et le segment maquillage. Donc, on donne ces chiffres-là sur 3 pays, le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Cameroun, parce qu'aujourd'hui, c'est les 3 pays où on observe un véritable boom dans ces secteurs-là. Ça, c'est d'une part. Et d'autre part, on donne des informations qualitatives. Et ces informations qualitatives, c'est définir les profils des consommatrices de ce marché-là.
Oui.
Quelles sont leurs habitudes de consommation, qu'est-ce qu'elles recherchent, c'est quoi leurs besoins.
Oui.
Et ça, c'est hyper important, hyper stratégique pour des marques africaines, mais aussi pour des marques internationales. Enfin, pour des entreprises qui sont dans ce secteur, peu importe qu'elles soient des marques ou pas, toute entreprise du secteur a besoin de savoir a besoin de connaître le profil des consommatrices, comment elles réfléchissent, qu'est-ce qu'elles veulent, qu'est-ce qu'elles recherchent. L'autre chose aussi, c'est les opportunités. On a listé dans ce rapport les opportunités qu'on retrouverait, qui sont peu exploitées dans ce secteur-là, et que si demain des entrepreneurs, des gouvernements africains ou des investisseurs étrangers s'y mettent, y a un marché qui les attend, en fait.
D'accord.
Dans le domaine de la formation, dans le domaine du packaging, dans le domaine de...
De la fabrication sur place aussi.
C'est ça, l'industrialisation sur place.
La transformation des matières premières.
Exactement, qui va non seulement être profitable pour le domaine de la cosmétique, mais aussi l'agroalimentaire. Ces usines, ou futures usines de packaging et de transformation sur place en Afrique, peut être profitable et au domaine de la cosmétique et au domaine de l'agriculture ou l'agroalimentaire. Donc voilà, c'est...
Assainir aussi ce secteur, parce qu'on trouve peut-être, par exemple, quand on regarde sur Internet, on voit une maman, une tante qui se lève, qui fabrique des produits elle-même dans sa cuisine,
oui.
et qui les propose à la vente. Donc ça permettrait également de structurer cela et de contrôler, parce que ça doit avoir quand même des conséquences assez négatives sur la
santé.
Oui.
Absolument, ça c'est un des gros challenges qu'on a, merci pour cette question, qu'on a précisé dans le rapport, c'est qu'aujourd'hui ce marché a besoin d'être réglementé,
oui.
d'avoir une norme. Et pour ça, les gouvernements africains doivent accompagner les acteurs qui sont dans ce marché-là, qui sont depuis plus de 20 ans pour les plus anciens et depuis plus de 10 ans pour les nouveaux, les accompagner pour aller à l'étranger. Et pour cela, ces marques ont besoin d'être réglementées, de respecter les normes internationales afin de pouvoir être vendues en dehors du continent. Et donc oui, il y a le challenge de la normalisation, pour justement sécuriser tout ce qui est produit de beauté sur le continent et ensuite pour que ça puisse être exporté, vendu à l'étranger.
Alors, vous avez pris en compte pour cette étude, hein, pour le rapport, les marques internationales qui commencent à s'installer de plus en plus et en tout cas à se propager un petit peu, notamment dans les pays d'Afrique subsaharienne. Il y a aussi les produits locaux, hein, oui. Donc qui sont encadrés, on va dire entre guillemets. Il y a aussi le commerce informel. On vient oui. d'en parler justement. Est-ce que justement ce marché informel a été pris en considération dans l'étude que vous avez menée ?
Non, c'est uniquement le marché formel
D'accord.
qui a été pris en compte dans ce secteur-là. Justement, quand on parle de beauté en Afrique, pourquoi on ne le prend pas au sérieux ? Parce qu'il y a beaucoup d'informels. Et tout le monde se concentre sur l'informel en se disant « c'est un gros boulot, il y a du travail à faire, il y a du ménage à faire », oubliant ceux qui sont dans le formel et qui génèrent beaucoup d'argent.
Ouais.
Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'on dit dans le rapport, c'est que cet informel-là, en général, c'est des boutiques de cosmétiques qui sont dans les quartiers et qui vendent des produits de beauté de mauvaise qualité,
ouais.
notamment des produits dépigmentants. Et que si les marques arrivent, enfin, si les marques africaines et les marques internationales installées sur le continent sortent de cette histoire de classe moyenne et vont chercher les autres.
Le peuple, en fait.
C'est
tout
ça.
Le monde.
Qui a le pouvoir d'achat. On est en Afrique.
Ménagère.
Exactement. Les gens ont le pouvoir d'achat de s'acheter en basin, ont le pouvoir d'achat de s'acheter des produits de 230€ tous les 2-3 mois ou du tissage. Bah, ces femmes-là, c'est une bonne majorité. Ce n'est pas parce qu'elles veulent se dépigmenter, c'est juste que les produits dont elles ont accès dans leur quartier ou leur ville à côté, bah, c'est des produits venant du commerce informel. Et donc, ce qu'on dit, c'est qu'il faut que les grandes marques internationales installées sur le continent et les marques africaines qui proposent de la qualité puissent aller rendre plus accessibles leurs produits à ces gens-là qui ont le pouvoir d'achat. Et donc, voilà, c'était le focus qu'on a fait, formel, mais aussi comment prendre les parts de marché de cet informel qui occupe une place plus importante dans nos esprits que le marché formel.
Et en fait, il y a juste une question qui m'intéresse comme ça. Est-ce que il y a plus de produits proposés qui sont des produits locaux fabriqués sur place, ou est-ce que ce sont plus des produits importés qui sont consommés en moyenne, en général?
Si, c'est un mix des deux. Le marché aujourd'hui, il est partagé entre les produits locaux et les produits exportés ou importés plutôt. Le truc, c'est que quand il s'agit de produits capillaires, les consommatrices ont plus aujourd'hui tendance à aller sur les produits de marques africaines.
D'accord.
Ou les produits naturels de leur cuisine, les huiles d'olive, tout
ouais,
ça.
Oui, beurre de karité et tout.
Exactement. Et quand il s'agit des produits pour la peau, là par contre, c'est les produits de marques étrangères.
Ouais.
Parce qu'il y a pour la classe moyenne, elles n'ont pas encore confiance aux produits de beauté des marques africaines pour leur visage ou pour la peau, parce qu'il n'y a pas encore de laboratoire certifié. En fait, il y a la question de la sécurité d'utilisation qui se
D'accord,
pose.
D'accord, ok.
Et pour les populations moins éduquées, elles utilisent encore les produits des grandes marques parce que le marketing est fort et c'est marqué dans leur tête. Et du coup, naturellement, pour les produits pour la peau, elles vont vers les produits de marques étrangères. Mais le capillaire, aujourd'hui, c'est vraiment pour les marques africaines sur le continent, dans cette région de l'Afrique.
Quelle a été la méthodologie utilisée pour
ouais.
réaliser ce rapport?
Alors, on est parti déjà, comme je disais, dans l'exercice d'informer nos deux cibles, consommateurs et entreprises du secteur. Il y avait des données qu'on avait déjà qui nous venaient comme ça, parce que les gens nous posaient beaucoup de questions sur nos réseaux sociaux, sur notre WhatsApp, et ça, c'était des données. Ça, c'est la première chose, le type de données qu'on a. Ensuite, les autres données qu'on a, c'est les groupes spécialisés beauté, les groupes fermés sur les réseaux sociaux où les femmes ne parlent que de beauté,
ouais.
et les femmes africaines francophones. On est parti aspirer toutes les données, aspirer les questions les plus posées, les demandes les plus posées, les produits les plus proposés. Ça aussi, c'était une partie des données. Et ensuite, on l'a fait pendant 3 ans, les 3 ans et demi d'existence de cet ALMA.
Ouais.
Et pendant 15 mois, on a sélectionné 1104 femmes sur les 13 pays d'Afrique francophone, 202 acteurs, et on est parti leur poser des questions sur leurs chiffres, sur leurs habitudes de consommation, sur leurs besoins, ça c'est pour les consommateurs, consommatrices, et sur les acteurs, on leur a demandé leur panier moyen, leur chiffre d'affaires, la fréquence d'achat
des
produits. Et toutes ces données et ça, après c'est des mathématiques, ça nous a permis de sortir les chiffres en 2020 et faire la projection en 2025.
Ah, bravo!
Merci!
Ça prend du temps tout ça?
Oui!
Et ça prend aussi beaucoup d'organisation, parce que ça veut dire des personnes partout dans chaque pays.
C'est ça! C'est exactement ça. Du coup, on a fait cet ALMA est présent au Sénégal, au Bénin, en Côte d'Ivoire et au Cameroun. Donc, nos équipes sur place ont fait des entretiens terrain. Sur les autres pays, on a trouvé des personnes, des prestataires qui nous ont fait les entretiens avec des questions que nous avions. Et l'autre chose qui est très importante, c'est que ce n'est pas des entretiens... C'est pas un formulaire qu'on envoie aux gens, non. C'est des personnes qu'on a soit rencontrées physiquement
ouais.
pour échanger. C'est ce qu'on dit dans le rapport, c'est des entretiens qualitatifs. On vient, on discute avec notre liste de questions et en échangeant, on a plus d'infos que ce qu'on avait prévu. Et ça, c'était juste extraordinaire, ce qui fait que dans le rapport, voilà, il y a des informations qualitatives qui permettent de comprendre les subtilités du marché Et jusqu'ici, ça n'existait pas et ça apporte vraiment beaucoup d'informations stratégiques aux acteurs du domaine. Enfin bref, je reviens sur le truc. Il n'y avait pas de formulaire en ligne envoyé à des gens, non. C'était des rencontres physiques avec ces femmes ou ces hommes. C'était des appels téléphoniques, WhatsApp ou appels directs. Et voilà. Et ces informations-là, ça nous a permis de faire ce rapport. Oui, c'était beaucoup de boulot. C'était plus de 1000 fiches à traiter. C'était beaucoup de boulot.
Alors, le rapport est disponible sur la plateforme.
C'est ça.
Donc, on peut se le procurer en moyennant finance, hein, comme dirait l'autre.
C'est ça.
C'est un rapport qui est vendu. Oui. Qui l'achète en général, plus précisément Amina Tature.
Là, les profils qui l'ont acheté depuis le début, c'est sorti le 31 mars. Je ne sais pas si je peux dire le prix.
Oui, si vous voulez.
Il y avait un prix de lancement à 99 euros, donc soit 100 000. Et là, c'est passé à 149 euros, donc 100 000 francs CFA. Et les profils qui les achètent, c'est les marques africaines, c'est les marques internationales, c'est les laboratoires.
Ah, mais d'accord, ok.
C'est des porteurs de projets qui sont soit en Afrique ou dans la diaspora. Et c'est les quatre profils. Marques africaines, marques internationales, laboratoires, pharmaciens, porteurs de projets qui sont en Afrique et qui sont dans la diaspora.
Alors, pour en revenir sur l'aspect un peu économique, parce que c'est important de l'évoquer, parce que c'est une partie de l'Afrique qui n'a pas encore compris, en tout cas, entre guillemets, c'est vrai ça. Que c'est relatif à toutes les problématiques que vous venez de citer, et bien au-delà, que c'est un secteur en plein boom, et que ceux intéressés qui nous écoutent et qui ont un projet dans ce sens devraient se lancer, puisqu'on dit que globalement, le marché africain de la beauté et des soins était estimé à 7,5 milliards d'euros en 2018 et il augmente actuellement entre 8 et 10% par an contre un taux de croissance du marché mondial proche de 4% juste pour faire le parallèle. Et il devrait atteindre plus de 12 milliards d'euros en 2022. Donc c'est un marché en plein boom et en pleine expansion.
C'est ça.
Donc ceux qui ont des projets dans ce sens, lancez-vous, c'est ça aussi
là. En fait, c'est ce que j'ai dit depuis 3 ans et que là, les chiffres le montrent sur l'Afrique francophone. Et que c'est le moment, il ne faut pas attendre que le marché soit hyper mûr pour y aller parce que ce sera trop tard. Il y aura déjà des personnes qui ont profité des opportunités. C'est vraiment le moment, encore une fois, d'y aller sur ce marché-là. Avec de la patience, déjà de la connaissance du marché. Et ça, c'est les données qualitatives et quantitatives qui permettent de savoir. Ensuite, y aller avec méthodologie et ensuite avec patience. C'est forcément un domaine qui va exploser demain. Ne serait-ce que par rapport à la démographie. Il y a une étude de l'ONU qui dit que d'ici 2050, on sera à plus de 2 milliards de population d'Africains et qu'une personne sur 4 sera un Africain. Ça veut dire quoi ? Que les entreprises de la cosmétique qui sont dans ce secteur-là devront fournir des produits, mais aussi des services beauté à cette population. Ne serait-ce que pour ça, je pense qu'il ne faut pas le prendre juste pour des chiffres. Déjà, c'est la réalité. Ensuite, les chiffres viennent confirmer cela. Je pense qu'il faut vraiment y aller.
Est-ce que ça ne devient pas justement, on en parlait tout à l'heure en antenne, une jungle entre guillemets avec tous les produits qui apparaissent tous les jours en fait. Il y a
un
produit qui arrive sur le marché.
Mais comme dans tout, aujourd'hui, tous les jours, comme je disais, au moment où on parle, il y a une marque africaine qui est née, ou il y a un institut qui est ouvert, ou il y a une école de formation. Mais une sélection naturelle va se faire forcément au bout d'un moment. Les plus
qualitatives.
C'est ça, les plus qualitatives, les personnes qui ont une histoire forte, qui ont une vision, vont rester, les autres vont mourir. Et puis voilà, c'est la loi de la sélection naturelle qui va aussi s'opérer sur ce marché-là.
Il y a une autre problématique justement sur laquelle vous mettez le doigt en Afrique francophone. Une personne sur deux utilise des produits de beauté qui ne le convient pas.
C'est ça.
Donc du coup, il y a aussi du nettoyage à faire.
C'est ça, c'est absolument ça.
Et un peu comprendre aussi sa peau et qu'il y ait, comment on va dire, une éducation justement à l'utilisation des produits de beauté.
Exactement. Et l'une des missions de cet ALMA, c'est ça. C'est éduquer cette cible qui veut des produits, qui veut utiliser des produits de beauté, mais qui ne sait pas quel est le produit qui répond à ses besoins. Et du coup, il faut une éducation. Et ça, tout le monde doit le faire. Tout acteur qui propose un produit de beauté sur ce marché-là, sa première mission doit être éduquer sa cible au produit qu'il vend. Et c'est hyper important. Et Pour moi,
sinon, on se retrouve avec des placards, des... Bon, franchement, à la maison, je peux pas vous dire le nombre de produits que j'ai achetés. Je l'ai utilisé une fois, je fais ah non, en fait, non, ça me va pas.
C'est ça.
Tu le mets de côté, tu le jettes ou tu le donnes. Ou...
C'est ça. Et ça, c'est... Il y a deux choses qui... Première chose, c'est le fait que les acteurs qui vendent des produits, ils vont sans penser qu'ils doivent éduquer leur cible. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, il y a un manque criard de personnel expert dans le conseil beauté en Afrique.
Ouais.
Et ça, c'est une opportunité qu'on liste dans ce rapport, qu'on précise dans ce rapport. Les gouvernements africains ou même en privé, un entrepreneur peut lancer des écoles de formation sur les cheveux, sur la manipulation des cheveux afro, des formations sur des conseillers beauté parce que ça manque énormément. Aujourd'hui, un gestionnaire sur deux de salons de coiffure recherche activement et désespérément
des
coiffeuses spécialisées dans la manipulation de cheveux afro. Et pareil, certaines grandes marques aussi ont du mal à trouver des conseillers expertes sur leurs produits. Et donc, il y a vraiment besoin de formation dans ce secteur-là. Et je pense qu'information plus, informer la clientèle plus, former des experts beauté ou des conseillers beauté pour orienter les clients dans les magasins ou en ligne, ça va résoudre ce problème que les femmes, une femme sur deux achète un produit qu'ils ne font pas.
C'est vrai que moi, je trouve que dans la communauté, justement, c'est ce que ça met en lumière. On a du mal à considérer que lorsque l'on a une expertise, on doit la commercialiser, en fait. Enfin,
absolument.
Bah, c'est ça.
Mais oui.
Pourquoi on a du mal avec ça?
C'est une question de culture. Question de culture. Et
ouais.
Du coup, il y a une pédagogie, une éducation à faire. Et ça viendra, ça prendra du temps, mais ça viendra. Et ce qu'on dit aussi, la beauté n'est pas futile. Enfin, ça fait des dégâts de ne pas informer ou de ne pas monnayer cette expertise, justement. Parce que c'est quoi les conséquences? C'est d'avoir des femmes qui rentrent dans des boutiques de cosmétiques, on leur vend n'importe quel produit. À la base, elles voulaient juste avoir un joli teint, comme
attends,
tout le monde. Voilà, toutes les femmes veulent avoir un joli teint.
Ouais.
Mais du coup, on leur propose des produits dépigmentants et à la base, ce n'est pas ce qu'elle voulait.
Absolument.
Donc, il faut absolument prendre au sérieux.
De nombreuses personnes qui entrent dans ce cercle vicieux, au début, ils veulent juste enlever une tache, unifier sa peau ou la rendre un peu plus lumineuse.
C'est ça.
Ça.
Et ça, pour moi, les marques africaines doivent le comprendre. Au lieu de se plaindre en disant « Oui, les consommatrices africaines, elles ne savent pas ce qu'elles veulent, elles veulent tout cet équipement. » Non, il faut changer de narratif. Il faut changer de focus. C'est à elles aussi de faire l'effort de rendre accessibles leurs produits. Au lieu de se concentrer en ligne, et notamment sur les réseaux sociaux, ou au lieu de se concentrer uniquement en centre-ville, il faut qu'ils descendent, décentraliser leur distribution, aller là où la consommatrice africaine est, et rendre leurs produits accessibles. Et ça va changer. La beauté n'est pas futile, j'insiste. Parce que ça impacte des millions de femmes et des millions de filles. Et donc, du coup, il faut vraiment prendre au sérieux ce secteur.
Bon, en tout cas, bravo pour ce rapport, un rapport chiffré et détaillé sur l'univers des cosmétiques en Afrique francophone subsaharienne. Si ça vous intéresse, vous pourrez la télécharger ou en savoir un petit peu plus sur la plateforme Setalma, SETALM2A.com. Donc, c'est un média en ligne dédié à la beauté. N'hésitez surtout pas à le visiter. Il y a beaucoup d'informations très, très intéressantes, des articles, etc. N'hésitez pas. Comment vous avez envie de conclure, Aminata Thior?
Alors, j'ai envie de dire que si vous êtes un politique et que vous voulez vraiment avoir un impact en termes d'emploi, accompagner des entrepreneurs qui sont dans ce secteur depuis des années, ce rapport est pour vous, pour avoir véritablement un impact sur ce secteur-là. Et il est temps parce que ça fait plus de 3 décennies que des entrepreneurs, des femmes en général, sont dans ce secteur-là et ne sont pas accompagnés. Ça, c'est la première chose. Que les investisseurs, j'ai envie de leur dire, il n'y a pas que le domaine de la santé, l'agriculture, la fintech, il y a aussi la cosmétique qui est là et il y a des entrepreneurs qui peuvent être des champions nationaux, continentaux et qui peuvent être vendus à l'étranger. Et enfin, les porteurs de projets, vous n'êtes plus seuls. La plateforme Setalma donne plein d'informations dans ce secteur en Afrique, mais aussi le rapport est là pour donner des chiffres donc quantitatifs, mais aussi des informations qualitatives qui vous permettent de comprendre les subtilités du marché de la beauté en Afrique subsaharienne francophone. Et enfin, dernière chose, arrêtons de prendre la beauté comme quelque chose de futile. On n'est plus à l'époque où les gens qui s'orientent dans la beauté, c'est des gens qui ont raté leur cursus scolaire. Non. Ce secteur a tellement changé qu'aujourd'hui, vous trouverez un médecin, un expert comptable, un ingénieur qui s'est reconverti et qui a lancé son business dans ce secteur-là. Ça a complètement changé. Il faut que notre société prenne aussi en compte ce changement.
Merci en voilà. tout cas d'être venu nous raconter tout ça, Aminata Thur. On se retrouve sur la plateforme C'est Alma pour ceux qui ça intéresse. N'hésitez surtout pas dans un instant. On sera au téléphone avec Adonaïs Yankan pour C'est le moment. Avant cela, on s'écoute un peu de musique avec l'artiste Burna Boy sur Africa Radio.